Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 18 juillet 1943 à Nauteuil-le-Haudouin, une quarantaine de kilomètres au nord-est de Paris. Au loin, on peut entendre le bruit d'un avion qui s'approche. À terre, une équipe balise le terrain, compose un triangle avec des torches, la lune discrète, l'absence de nuages permet au pilote de se repérer puis d'atterrir. Auparavant, une confirmation par la BBC. L'âne rouge boira à la fontaine et les saumons remontent la rivière sont les phrases étranges utilisées pour signaler que l'opération du soir aura bien lieu. Et de fait, le pilote manœuvre, touche le sol et accomplit une boucle prêt à repartir. L'opération est rapide, moins de 8 minutes, on s'échange des cadeaux, des cigarettes, du thé, des alcools fins. Des personnes descendent de l'avion, d'autres remontent. L'engin repart aussi vite qu'il est venu vers l'Angleterre. Une opération clandestine, 100 fois répétée, qui ce 18 juillet 1943 ressemblerait à toutes les autres s'il n'y avait eu, lors de ce voyage retour, une passagère bien particulière à son bord, Marie-Madeleine Fourcade, alias Pose 55, ou Hérisson, cobaye, ou bien tout simplement Marie-Madeleine, chef du réseau de résistance Alliance. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une page de notre histoire, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, une page où se mêlent le courage, la peur, parfois la lâcheté et la trahison. La vie de Marie-Madeleine Fourcade est sans conteste une aventure merveilleuse, on dira plutôt exemplaire, en tout point organisée, séduisante, intelligente, des qualités qui auraient été bien inutiles si Marie-Madeleine Fourcade n'avait pas eu une conviction à toute épreuve, une conviction née 3 ans plus tôt au cœur de la débâcle en 1940, la conviction de poursuivre le combat contre l'ennemi. Michel Cointet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes historienne, auteur de nombreux ouvrages sur la question, notamment d'un De Gaulle-Giraud, l'affrontement, paru chez Perrin en 2005. C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro de Canal Académie et nos auditeurs peuvent retrouver dans la médiathèque de Canal Académie cette émission consacrée au général De Gaulle et au général Giraud. Alors, chez le même éditeur, chez Perrin, vous venez de publier une biographie merveilleuse, Marie-Madeleine Fourcade, un chef de la résistance. Alors, cette biographie, Michel Cointet, a une saveur particulière parce que vous avez connu et vous avez bien connu Marie-Madeleine Fourcade, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, je l'ai connue dans les années 70 et assez longuement. J'ai travaillé avec elle pour une revue, pour des recherches consacrées d'ailleurs au gaullisme, puisqu'elle était devenue gaulliste à ce moment-là, alors qu'elle ne l'était pas du tout en 1940. Elle s'est ralliée à De Gaulle assez tardivement, hein, en 1944, et puis elle s'est devenue une grande gaulliste. Donc j'avais travaillé avec elle et puis je l'ai fréquentée intimement pendant plusieurs années. Mais curieusement, alors que j'étais déjà historienne, je ne voyais pas en elle un objet d'histoire. Je n'imaginais pas qu'un jour je ferais sa biographie. Sans doute le temps n'en était pas venu. Il a fallu peut-être un choc. Vous parliez tout à l'heure de Gaulle-Giraud, l'affrontement. Mais je crois que c'est à l'occasion de ce livre, puisque Marie-Madeleine Fourcade avait organisé l'évasion du général Giraud de France en novembre 1942. C'est son réseau, c'est Alliance qui l'a fait. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est la même. C'est ma Marie-Madeleine, c'est-à-dire cette amie, finalement, était une héroïne de l'histoire. Bon, je le savais bien, je l'avais interrogée souvent sur son passé, quoique ce qui m'intéressait plus à ce moment-là, c'était l'action. Mais elle avait exactement, j'allais dire, toutes les qualités. En 1970, elle avait encore toutes les qualités qu'elle avait pendant l'occupation. C'était le genre de femme, si vous voulez, qui vous disait, eh bien écoutez, allons au bout de cette falaise. Puis si elle avait dit sauter, on sautait, sans réfléchir. Elle ne nous demandait pas de sauter, parce qu'elle était raisonnable, par ailleurs.
Alors, entamons le sujet directement, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette vie. Commençons par sa jeunesse. Quelles furent ses origines ?
Bien, elle a des origines, finalement, qui sont relativement originales, hein, pour la France, pour la France du début du XXe siècle, puisqu'elle est née à Shanghai, ce qui n'est quand même pas très courant. Elle est née à Marseille, mais elle vit à Shanghai, puisque son père est l'agent de la Compagnie Générale Transatlantique à Shanghai. Donc, il s'occupe évidemment des bateaux, des passagers, mais surtout, Il a des liaisons très fortes avec l'économie locale par l'intermédiaire des compradores, bien sûr, mais il connaît très bien cette économie locale puisqu'il fallait que l'agent général de la compagnie transatlantique remplisse les cales des navires. Et au fond, c'était un homme qui s'occupait beaucoup de commerce. Donc, il a de fortes relations. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va rester jusqu'à une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'elle ait 10 ans, en Chine et aussi au Japon. Et là, surtout en Chine, elle a des contacts internationaux très forts. Elle a été élevée à la manière anglaise. Elle parle aussi bien anglais que français. Et on vit à Shanghai, à cette époque-là, à la manière britannique. On adopte toutes les habitudes britanniques. Il y a des contacts assez forts avec la concession internationale. La concession française a cet aspect, j'allais dire, d'une petite ville de province française avec quand même quelques beaux monuments. Mais on y vit un peu à la française, mais on a sans cesse quand même des relations avec les Britanniques. Elle a donc une vision déjà, si vous voulez, internationale. C'est une enfant qui respire déjà largement. Bon, dans sa jeunesse, par la suite, si vous voulez, elle a eu une éducation qu'il n'a destiné pas obligatoirement à ce qu'elle a fait par la suite, c'est-à-dire que sa vocation, elle voulait devenir pianiste. Elle était très douée, donc elle pensait faire une carrière de virtuose. Alors, ça a un intérêt, c'est-à-dire qu'elle travaille de nombreuses heures par jour, son piano. Elle a donc une forte volonté et l'habitude d'un travail long dans la journée. Mais par ailleurs, l'éducation est très individualiste et elle vit dans une famille où il y a une chaleur assez extraordinaire, parce que nous verrons que souvent, cette affaire de résistance n'est pas individuelle, mais elle est souvent familiale. Alors, elle a perdu son père. Son père est mort alors qu'elle avait 10 ans. Et la famille rentre en France. Mais enfin, la mort du père ne l'a peut-être n'est pas déterminante, si vous voulez, parce que la mère est très chaleureuse et les trois enfants vivent avec beaucoup d'amour ensemble.
Alors, je reste tout de même encore quelques secondes sur ces Français de l'étranger, puisque c'était une Française de l'étranger. Vous écrivez, ces Français de l'étranger sont amoureux d'une patrie idéalisée. L'idée de patrie, on la retrouve tout le temps dans la vie de Marie-Madeleine Fourcade, d'autant plus en 1940.
Elle est tout à fait patriote. Elle est patriote et elle est patriote, je vous le dis très bien, à la manière des Français de l'étranger. Parce que lorsqu'on est en France, finalement, bon, la patrie, on a ce don tous les jours, mais on ne s'en aperçoit pas. Et puis surtout, bon, il y a eu ce grand traumatisme de la Première Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale, bon, au début, c'est peut-être un certain enthousiasme, quoique c'est plutôt la raison, finalement. On revient beaucoup sur l'idée d'enthousiasme au moment de la mobilisation. Mais cette patrie, très vite, si vous voulez, cette crise de la Première Guerre mondiale, ça a été le sang, la mort pour beaucoup de Français. 1 350 000 morts, ça fait quand même de très nombreuses familles qui sont touchées. Et l'amour de la patrie s'accompagne de deuil, de tristesse, de sang. Or, quand on est à l'étranger, ça, on ne le voit pas. On lit les journaux, on lit l'illustration, on lit les actes héroïques, mais ça reste un peu dans le domaine de l'imaginaire. C'est-à-dire que le maire ne vient pas, les gendarmes ne viennent pas annoncer la mort d'un proche. Et cela, si vous voulez, je pense que ça a eu de l'influence plus tard pour elle. Ça a enlevé, si vous voulez, peut-être certains freins qu'on trouve chez les Français, où le pacifisme était quand même important dans l'entre-deux-guerres. Je crois que ça a enlevé certains freins. Il y a une sorte de patrie idéale. Tout est simple pour elle, parce que, au fond, c'est largement dans l'imaginaire. Je crois que les Français de l'étranger aiment beaucoup la France, d'ailleurs, si on réfléchit bien, beaucoup de ralliés sont des ralliés au général de Gaulle, de la France libre, sont des Français de l'étranger.
Alors, elle est issue d'un milieu catholique de droite.
Oui, j'ai un milieu catholique. Et d'ailleurs, finalement, là, j'ai même quelques renseignements supplémentaires qui m'ont été donnés récemment, d'ailleurs, après que j'ai écrit ce livre par son fils. Et son fils, le colonel Méric, me dit qu'elle était vraiment croyante. Mais c'est une famille qui n'est pas engagée dans les œuvres. Il n'y a pas d'engagement très fort, si vous voulez. C'est du catholicisme. C'est, par ailleurs, une famille de droite, mais assez peu politisée. Pas du tout politisée, même.
Elle sera, j'allais dire, plus politisée par ses fréquentations plus tard.
Ah oui, là, ça, je crois que c'est quelque chose, si vous voulez, que personne ne savait, puisqu'elle a écrit des souvenirs à l'Arche de Noé pour rendre hommage aux membres de son réseau. Elle
qui commence portait en 19... les noms d'animaux.
Voilà, tous portent les noms d'animaux, l'Arche de Noé. Donc, dans ses souvenirs, elle ne les commence qu'en 1940. Donc, en disant historienne, il a bien fallu que je recrée. Parce que, pour moi, si vous voulez, je me suis dit, il n'est pas possible de se lancer dans cette action s'il n'y a pas quelque chose avant. Et puis, je crois aussi, si vous voulez, que... Enfin, moi, je n'ai jamais cru, si vous voulez, qu'on pouvait se lancer dans le renseignement comme ça. C'est un peu un métier, quand même. Si on veut être efficace, il faut avoir des compétences. Je me suis dit, comment a-t-elle acquis ces compétences? Et là, creusant les choses, je découvre les années 30. Effectivement, j'ai découvert une la cagoule. Alors la cagoule militaire, attention. Cagoule,
voilà, avant d'en venir à la cagoule, bon, je dois vous faire une confidence. La première fois, quand j'ai reçu votre ouvrage en service de presse, je l'ai ouvert. Et quand on ouvre un livre, on tombe toujours par hasard sur une phrase. Et c'était une phrase qui m'a, j'allais dire, choqué, mais dans le bon sens, ça m'a provoqué un choc. C'est-à-dire qu'en 45, c'est une fille qui a 36 ans. C'est-à-dire qu'elle va être chef d'un réseau militaire alors qu'elle a la majorité depuis une dizaine d'années simplement.
Oui, voilà. c'est une très jeune femme.
Alors que fait une femme après sa majorité à 21 ans en France dans les années 30?
D'abord, elle commence généralement à 21 ans, elle est mariée quand elle appartient à ce milieu bourgeois, si vous voulez. Elle s'est mariée à 17 ans, ce qui est quand même très jeune, un bel officier. 8 ans de plus qu'elle, mais évidemment, beaucoup de caractère, et finira compagnon de la Libération, hein, le futur général Méric. Mais évidemment, tant d'autorité avec une femme qui avait un caractère très fort elle-même, bon, ça n'a pas duré très longtemps, et elle s'est retrouvée seule à Paris dans les années 30, et ce Paris des années 30, contrairement à ce que certains pensent, offre beaucoup d'opportunités aux femmes libres, mais qui vit quand même... presque en famille, puisque sa sœur, qui est mariée au commandant Georges Picot, vit à côté d'elle, rue Vanneau, hein, dans le faubourg Saint-Germain. Donc elle se voit très souvent, elle n'est pas isolée quand même. Et dans ce milieu d'officier, si vous voulez, elle cherche sa voie. Bon, elle s'occupe de ses enfants, elle a deux enfants, mais elle n'imagine pas qu'elle pourra rester inactive. Et toutes les opportunités qui s'offrent à elle, elle les saisit, et en particulier, vous avez vu qu'on la retrouve à Radio Cité, cette radio assez extraordinaire, fondée par Bleustein Blanchet, qui sera le fondateur plus tard de Publicis, qui est une radio commerciale. Et là, elle travaille, elle fait des textes, elle fait de la publicité, et puis elle va rencontrer un homme, Georges Loustonnot-Lacau, et là, c'est une révélation, elle croit en cet homme.
Nous sommes en 1936. Oui. Alors, c'est une révélation, son expression est claire, elle dit « j'étais ferrée ». Était Georges Loustonnot-Lacau?
Un étrange homme, un homme qui mériterait bien une biographie, incontestablement, un homme d'aventure, mais en même temps un penseur, hein, il se croyait philosophe. C'est un homme d'action, très original, mais c'est un homme de service de renseignement, de service secret, et c'est un homme qui aime les complots. Je crois que c'était un peu son défaut à certains égards. Il adorait les complots, il adorait l'action secrète. Et Georges Loustonnot-Lacau a fondé ce que j'ai appelé la cagoule militaire. Et je tiens à bien préciser que ce n'est pas du tout la même chose que la cagoule de Delonge. La cagoule de Delonge, c'est un mouvement politique destiné à prendre le pouvoir, qui commet d'horribles assassinats, qui veut faire une guerre civile en France. Loustonnot-Lacau a dû avoir des contacts avec Delonge parce que son financier, le maréchal Franchet d'Espéret, pour faire des économies, lui a dit « prenez contact avec Delonge ». Mais il a détesté Delonge tout de suite, il ne voulait pas lui obéir, il veut être son propre maître, mais évidemment il est obligé à quelques contacts. Et il a mené une action parallèle à celle de Delonge, mais certains disent qu'il a dénoncé la cagoule de Delonge au ministre de l'Intérieur, lorsqu'il a appris qu'il y avait des dépôts d'armes et qu'il y avait la préparation d'un coup de force contre l'État. Lui, ce qu'il fait, c'est ce que moi j'ai appelé la cagoule militaire, c'est ce qu'il a appelé la spirale, l'union militaire française, vous savez, on change souvent de nom. C'était des groupes, si vous voulez, réunissant des officiers et des officiers de réserve qui cherchent à débusquer les communistes qui sabotent l'industrie d'armement ou bien qui font de la propagande antimilitariste dans les unités. Et là, c'est l'action qu'il a menée. C'était une action, si vous voulez, dans le domaine militaire et anticommuniste. Mais c'est quand même très différent de la cagoule.
Donc... Marie-Madeleine Fourcade est en fait...
Son adjointe.
Oui, et elle est son adjointe.
Elle apprend tout de lui. Il lui apprend à analyser les hommes, il lui apprend à agir dans ce domaine tout nouveau pour elle, qui est la politique et qui est l'action, finalement, l'action en partie secrète. Et c'est là, en fait, qu'elle prépare déjà sa résistance. Et en même temps, elle montre des qualités d'organisation extraordinaires. C'est-à-dire qu'elle a l'idée d'un fichier. C'est pas Loustonnot-Lacau qui fait un fichier des adhérents de la spirale, c'est elle. Et puis, elle observe tout. Elle observe tout.
Elle a une mémoire phénoménale.
Phénoménale et un sens de l'observation incroyable. Vous savez, moi, je la voyais, elle était capable, j'allais dire, de trouver un cheveu blond sur une moquette beige. Bon, c'est peut-être un peu trivial hein, comme explication, mais c'est une femme qui voyait tout et qui ne laissait rien passer. Elle avait un œil de lynx.
Alors, que va-t-il se passer en 1940, c'est ce que je vous propose de voir, Michel Cointet, après une première pause. À tout de suite.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Michèle Cointet, historienne et auteure d'une biographie de Marie-Madeleine Fourcade, chef de la Résistance, chef du réseau Alliance. Alors nous avons évoqué cette jeunesse, la guerre éclate en 1939, hein, parce qu'encore une fois Marie-Madeleine Fourcade est jeune, elle arrive en 1939, elle a 30 ans, hein, c'est bien ça, elle est née en 1909.
30 ans, voilà. Trentaine éclatante.
Voilà. Arrive la déclaration de guerre et surtout la débâcle de mai 40, c'est l'exode pour des centaines de milliers de Français. Et elle s'engage également dans les routes de l'Exode, puisque le pouvoir n'est plus à Paris. Elle se dirige, dites-vous, expliquez-vous, dans le Berry. Elle se dirige vers le Berry.
Oui, lorsqu'elle apprend que les Allemands vont arriver à Paris, elle sait très bien, si vous voulez, que Loustonnot-Lacau était très soupçonné par les Allemands de mener anti-allemande. Il a vu une action très patriotique. Hein, par ses ouvrages, il était quand même connu. Donc, il y a un risque que les publications qu'elle dirigeait pour lui, des petits bulletins, si vous voulez, il y a un risque que ce local soit occupé et que peut-être Loustonnot-Lacau soit arrêté. Donc il lui avait donné rendez-vous dans son pays, dans son fief, le Pays Basque, Oloron-Sainte-Marie. C'était le fief puisque c'est un Basque pas bondissant comme Brotra, mais c'est un Basque un peu secret. Donc le rendez-vous était fixé là. Lui, il était prisonnier. Il était prisonnier et blessé. Donc ils partent en voiture. Elle part avec des amis qui sont les constructeurs de voitures Samson, qui emportent d'ailleurs des plans de moteurs d'avion assez révolutionnaires. Et il faut s'arrêter. Première étape, le Berry. Et là, elle se retrouve chez une amie qui est Aurore Sand. Elle espérait, la petite fille donc de George Sand, elle espérait pouvoir loger chez elle, mais il n'y a pas de place. Et elle lui donne les clés du château de Nohant. Et cette soirée se passe donc à l'ombre de George Sand. Et en fait, Marie-Madeleine Fourcade était aussi une romantique. C'est-à-dire qu'elle était romantique et elle avait en même temps des intuitions extraordinaires, un peu superstitieuses. Elle sent toujours, et ça j'ai tenu à le dire, cette femme si rationnelle sentait des présences.
Alors il y a une chose extraordinaire, il y a une scène extraordinaire que vous décrivez, c'est précisément la scène surréaliste de l'astrologue, c'est qu'elle consulte un astrologue en 1940.
Oui, parce que ses amis veulent continuer vers le sud. Elle ne se sent pas à l'aise. Et puis, elle sait qu'il y a un astrologue à Nohant. Donc, elle va le consulter avec ses amis. Et cet astrologue, donc tous ses amis interrogent l'astrologue sur ce qui va arriver. Bon, il dit, moi, je ne peux pas prévenir l'avenir. Je peux juste faire votre signe astrologique. Et Jean Chalmson, le constructeur d'auto, dit, avez-vous fait le signe astrologique de Hitler? Alors, il dit, oui, bien sûr. Il va décliner. Ouais, pas tout de suite, hein, quand même. Et l'astrologue fait le signe astrologique de tout le monde, leur présente individuellement. Bon, tout le monde fait, lorsqu'ils sortent de la pièce où ils se sont entretenus, ils ont l'air tristes. Et puis, lorsqu'elle arrive, l'astrologue a l'air très, très épanoui, si vous voulez, et lui dit, madame, vous arriverez jusqu'au bout de votre route. Alors, elle est contente, mais en même temps, elle ironise un peu. Il lui dit, oui, vous irez jusqu'au bout, puisqu'il a lu dans son signe astrologique que c'est une femme qui triompherait de tout. Et elle le croit.
Alors, c'est une femme qui a du caractère, sans aucun doute. Et il y a un autre épisode à Nohant, c'est l'hébergement d'hommes de troupe qui lui laisse un goût amer, pour ne pas dire un véritable dégoût devant la capitulation.
Oui, alors les troupes, évidemment, chassées par les Allemands, étaient en fuite sur les routes et se réfugient à Nohant, une petite unité commandée par un capitaine, deux lieutenants de réserve qui sont instituteurs. Et là, j'allais dire que Marie-Madeleine avait quelques préjugés contre les instituteurs. Ça arrive parfois aux femmes. Hein. Elle les prenait tous pour d'affreux pacifistes du syndicat national des instituteurs. C'est vrai que certains l'étaient. Et moi, j'essayais essayé, souvent je lui disais, mais vous savez, vous l'avez écrit dans l'Arche de Noé, vous avez eu tort, parce que finalement, ces instituteurs, de ces instituteurs sont nés quand même beaucoup de résistants, et ils n'étaient pas, les Français sont quand même bien battus en 1940, pas tous, mais ils n'avaient pas d'armes, hein, surtout, et la stratégie était mauvaise, mais certains sont quand même courageusement battus, elle n'en démordait pas. Et là, elle montre certains préjugés, et il est vrai que ces hommes ne veulent pas se battre, hein, ils ne pensent qu'à se cacher, hein, certains, à fuir vers le sud, et même, ils employaient une expression qu'elle reprenait elle-même plus tard, il voulait riper, disait-elle, parce qu'elle était toujours très ironique. Hein. Ils employaient cette expression, il faut riper, c'est-à-dire, il faut se glisser dans les mailles du filet, et puis bon, ça voulait dire tout simplement sauver, et ces militaires leur proposent d'ailleurs de les accompagner jusqu'au Pays Basque, de leur fournir de l'essence, et ils partent ensemble. Donc là, elle trouve quand même que cette armée baisse un peu les bras. Alors, est-ce qu'il y a une part d'imagination? Est-ce que la scène s'est passée exactement comme cela? C'est difficile à dire, hein, pour un historien. Je crois quand même qu'il y a beaucoup d'éléments de réalité. Et surtout, elle date, si vous voulez, de cet épisode, l'idée que la relève doit être prise. Alors, c'est quand même très tôt, hein. On est en juin 1940. Il faut prendre la relève de ces hommes qui déposent les armes, au moins provisoirement. Et si les soldats le font, eh bien, c'est aux civils de prendre leur place. Là, elle est vraiment convaincue. Alors, c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est très tôt. C'est une sorte de réflexe. Mais rappelez-vous aussi que le général de Gaulle, allant, lorsqu'il voit les soldats français lever les bras et les Allemands leur dire, nous n'avons même pas le temps de vous faire prisonnier, dit, je suis saisi d'une colère froide devant ce dédain. Et si j'ai fait quelque chose, c'est à cause de cela. Et bien elle aussi, elle est pas gaulliste, mais elle a ce réflexe.
Voilà, elle a une froide résolution.
Ah oui, la résolution est très froide. S'ils ont baissé les armes, moi je les reprendrai d'une façon ou d'une autre. Elle ne sait pas comment. Ça sera peut-être en partant, mais elle ne sait pas encore que de Gaulle, bien sûr, va lancer l'appel du 18 juin. Elle n'y répondra pas, d'ailleurs, puisqu'elle a trouvé d'autres moyens. Mais elle sent qu'elle veut faire quelque chose parce qu'elle a honte et parce qu'elle est convaincue que ça ne peut pas être définitif.
Alors, venons-en justement à l'embryon. Je ne vais pas parler de la naissance du réseau, mais de l'embryon de ce réseau. Paradoxalement, il se situe à Vichy, dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel des Sports.
Oui, c'est paradoxal et sans doute pas très facile à comprendre pour les auditeurs et pour ceux qui lisent beaucoup de récits de résistance, parce qu'en général, ça se passe pas comme ça. Alors, ce qui s'est produit, c'est que Loustonot-Lacour, donc son ami et son collaborateur, a été nommé délégué général de la Légion française des combattants, qui est installé à Vichy et qui est créé en août 1940. Et il la persuade qu'il faut aller à Vichy.
Alors, elle était composée de quel type de personnes, cette Légion?
La Légion française des combattants réunit tous les anciens combattants qui veulent y adhérer. C'est un mouvement unitaire des anciens combattants de l'entre-deux-guerres. Ça a fait à l'apogée de la Légion 1,5 million de personnes. 1,5 million de personnes d'anciens combattants de 14-18, mais aussi, ce qui est beaucoup plus intéressant, d'anciens combattants de 1939-40, c'est-à-dire des hommes jeunes et des hommes qui ont une formation et qui sont actifs et qui, pour un grand nombre d'entre eux, sont aussi des patriotes. À l'intérieur de la Légion, bon, elle n'a pas envie d'y aller. Elle n'a pas envie d'y aller, mais finalement, elle suit quand même Loustonot-Lacour parce qu'il lui dit, au rez-de-chaussée, on s'occupera d'aide sociale. Hein, c'était la justification. Il était délégué chargé de la réinsertion sociale des légionnaires. On s'occupera des œuvres sociales. Et au premier étage, on fera quelque chose, c'est son expression, de costaud. Alors costaud, ça veut dire, eh ben, on essaiera de recruter des hommes qui ont une formation, qui ont des aptitudes militaires, qui ont du courage, qui veulent continuer. Et puis, on verra si on peut faire quelque chose. Vous voyez, ça n'allait pas au-delà de quelque chose avec eux. Prendre des contacts. Alors, évidemment, c'était un bon poste d'observation. Il fallait être prudent parce qu'il y avait toutes sortes de gens, hein, dans cette Légion. Et certains, ça finira pas très bien, d'ailleurs, pour cette institution. Ça finira dans le service d'ordre légionnaire. Mais enfin, à ce moment-là, il y a des gens qui ont cru qu'on pouvait, sous la couverture de la Légion, où il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, créer des groupes clandestins. C'était un peu une illusion, puisque les Allemands se méfiaient beaucoup de la Légion, puisqu'ils n'ont pas accepté que la Légion soit créée en zone nord. Ils l'ont cantonnée dans la zone sud. Hein. Ils se méfiaient, ils avaient vu dans les années 20 comment ça se passait, comment eux-mêmes avaient pratiqué, si vous voulez, un certain renouveau du nationalisme ou du patriotisme dans l'Allemagne sous ce couvert-là, hein, sous le couvert des anciens combattants. Et c'est à l'intérieur de ce milieu qu'ils ont trouvé les premiers contacts. Et si vous voulez, le réseau va naître en dépit de cela, bon, je crois qu'elle ne se plaisait pas. C'est un milieu très, très, très viril, hein, le milieu de la Légion, le milieu de Vichy, à certains égards aussi. Les femmes ne peuvent être guère qu'assistantes sociales. Donc, elle reste dans une très grande discrétion. Elle est même maîtresse de maison, finalement. Elle s'occupe des repas, elle s'occupe des sports. Mais en même temps, il commence à créer les éléments d'un réseau, c'est-à-dire à chercher, et ça va commencer par des officiers de marine, qui vont venir les voir. Et puis, quand quelqu'un, bon, il y a aussi, il faut un peu les ministères, le ministère de la guerre en particulier, où viennent se faire démobiliser des officiers. Et là, quand ils voient un officier, si vous voulez, qui manifeste des sentiments, ils les font un peu parler, ils se disent, bon, on va faire quelque chose avec lui.
Quelle est sa position par rapport au maréchal Pétain et par rapport à un événement comme Mersel Kébir?
Alors, elle, si vous voulez, n'a jamais été pétainiste. Elle n'a pas été pétainiste, d'abord, j'allais dire, pour une raison très simple, c'est que lorsqu'elle était mariée avec... au cours de son premier mariage, son mari était capitaine et était au cabinet de Lyoté. Donc, elle a été au Maroc, dans l'entourage de Lyoté. Et l'entourage de Lyoté n'a jamais pardonné au maréchal Pétain d'avoir mis à l'écart, en partie d'ailleurs, le maréchal Lyoté en 1925 dans la guerre du Rif. Et à ce moment-là, déjà, si vous voulez, au Maroc, on est, enfin, les partisans de Lyoté, ils sont très nombreux. Hein, il a suscité une adoration, Lyoté. Pour eux, Pétain était un général finalement politique. Et ça, pour elle, très tôt... Elle n'a jamais été pétainiste, elle-même, elle le traitait de vieux capitulard. Hein. C'était pour elle aussi un pacifiste. Alors, c'est extraordinaire qu'à Vichy, on puisse penser cela. Bon, elle ne le disait pas très haut, elle ne le disait pas à forte voix.
Oui, oui. Il n'y a pas cette séparation, hein, pétainiste-gaulliste, puisque De Gaulle, à cette époque, n'existe pas. Et vous le disiez tout à l'heure, elle ne le connaissait pas, elle n'a pas entendu l'appel du 18 juin.
Non, elle ne l'a pas entendu. Et si elle l'avait entendu, elle aurait cru que ça ne la concernait pas, franchement. Ouais. Si vous voulez, parce que elle est persuadée que la résistance doit se faire en France. Parce que c'est une femme aussi qui a le sens de l'efficacité. Pour elle, bon, ce que De Gaulle fait à Londres, ça peut être bien, ça ne l'intéresse pas franchement. Et même, elle a une opinion, si vous voulez, elle a envoyé quand même, elle a des informations, parce que dès novembre 1940, elle a envoyé à Londres son propre frère, Jacques Bridoux. Et Jacques Bridoux est un jeune journaliste, champion du monde de bobsleigh d'ailleurs, marié à une jeune femme britannique. Et elle l'a envoyé enquêter à Londres pour savoir quelle est la position de De Gaulle. Et il lui a fait un tableau un peu pessimiste. Hein. Il a dit De Gaulle est très subordonné, tient tous ses moyens des Britanniques. Donc, je ne recommande pas qu'on se lie au général De Gaulle, dont la position n'est pas suffisante. Il n'a pas d'avion, il ne sera pas utile. Bon, c'est un peu réaliste, mais c'était une femme réaliste.
Elle n'est pas politique, en fait. Si elle est pour l'efficacité, elle est d'abord pour les militaires, finalement.
Elle est pour les militaires, elle n'est pas politique, si vous voulez, parce qu'elle veut mettre la politique à l'écart. D'abord, je crois qu'il y a deux raisons à cela. Il y a la fréquentation d'Oustonolakot, qui lui est très politique et adore la politique. Et elle s'aperçoit que chaque fois que Oustonolakot fait de la politique, il s'éloigne de ses objectifs et il prend des risques excessifs. Donc, ça lui fait un peu peur, la politique. Et la deuxième raison, c'est quand même, elle se rend compte très vite et elle va en faire une règle de vie pendant toute l'occupation que les opinions politiques doivent être mises à l'écart dans une crise nationale. Parce que ça divise les hommes. Ça divise les hommes et qu'un jour, finalement, dans un mouvement politique, certains ont des ambitions pour la prise du pouvoir, la libération, n'ont pas la même vision des choses. Et donc, il faut mettre la politique à l'écart. Il faut réunir des Français, mais dire la politique, on la fera quand la France sera libérée. Alors, évidemment, ça a éloigné un certain nombre de personnes d'elle, en particulier les gaullistes et en particulier, si vous voulez, les recrues d'une région que vous connaissiez bien à cause de votre famille, hein, vous disiez tout à l'heure, du Nord. Parce que dans le Nord de la France, la résistance c'est quand même très, très gaulliste. Hein. Et moins dans le reste de la France. Mais dans le Nord, oui, il y a là un fort gaullisme. Et là, plusieurs résistants qui sont venus à elle d'abord, ensuite l'ont quitté. À cause de cette raison, parce qu'elle ne voulait pas du tout de politique. Elle fait abstraction des sentiments politiques des gens. Donc, vous trouvez des gens divers hein, dans son réseau. Bon, pas évidemment tellement de gens venant du Parti communiste. Hein. Ils viennent quand même du milieu de droite ou de milieu apolitique. Bon, largement de milieu militaire. On ne faisait quand même pas beaucoup de politique dans l'armée.
Loustonolakot, écrivez-vous, pense que la rupture avec le maréchal Pétain est inévitable.
Il le lui dit. Alors, est-il sincère quand il le lui dit ? Je n'en suis pas absolument convaincue. Il pensait que ça viendrait un jour, mais c'est vrai que Lousteau de Lacour a quand même des ambitions.
En 1940, c'est quand même...
Il est tenté quand même d'agir dans le régime. Il n'a pas encore... Bon, il n'est pas le seul. Certains croient qu'on peut-être avoir une position résistante. Bon, dès l'armistice, elle n'est pas du tout d'accord avec cette analyse et Montoire ne fera que confirmer son sentiment. Elle n'en attend rien. Alors que Lousteau de Lacour, oui, effectivement, a des illusions et croit qu'il peut agir à Vichy et réunit effectivement des hommes qui peuvent avoir, bon, dans la Légion, par exemple, du Béarn, il a beaucoup agi et à un moment, donc, le réseau va se réfugier en Béarn. C'est vrai qu'il y a eu des aides qui ont été données par la Légion, mais elle croit que ça sera provisoire. Alors, lui ne donnait pas finalement tellement à délai. Moi, je pense qu'il croyait que ça pouvait durer une année à peu près.
Nous retrouvons Michel Cointet dans un instant.
Qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait ?
Le parcours ?
La rencontre ?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque
sur Canal Académie.
Nous évoquons avec Michel Cointet, historienne, qui vient de recevoir un prix de l'Académie, un prix que vous avez reçu, Madame Cointet, pour votre ouvrage De Gaulle et Giraud, l'affrontement, paru chez Perrin, une émission que vous retrouvez dans les archives de Canal Académie. Nous évoquons Marie-Madeleine Fourcade, un chef de la Résistance. Alors nous sommes en 1940, et 1940, c'est l'année de la fondation du réseau Alliance, très exactement à la fin de l'année 40, le quatrième trimestre. En quoi consiste, Michel Cointet, le travail d'un réseau ?
Bon, d'abord, il faut réunir des hommes. Il faut réunir des hommes en qui on a confiance. Bon, c'est pas évident non plus. Alors, si vous voulez, on peut prendre cet exemple-là. Elle se fait aider parce que c'est une femme aussi, si vous voulez, qui a une forte autorité, mais qui sait faire travailler les gens en équipe et qui sait motiver ses collaborateurs et ses amis et ses relations. Elle n'est quand même jamais seule. Elle a bien compris qu'il fallait s'adresser aux plus compétents. Et là, elle a commencé par recruter le colonel Bernis, qui est un as du renseignement de la Première Guerre mondiale. On voit les liens entre la Première et la Deuxième Guerre, d'ailleurs, à propos de cette histoire du réseau Alliance. Et puis, on recrute aussi des marins. Des marins parce que le réseau se fonde à Marseille. Ils se fondent à Marseille, sur la Côte d'Azur, où on est un petit peu plus loin quand même de Vichy. À Vichy, on fait le tour des ministères, mais enfin avec prudence quand même, parce que la police est très vigilante. Tandis que à Marseille et dans le Sud, la police est beaucoup moins présente et puis surtout même elle est un petit peu complice. N'oublions pas que Freinet aussi commence sa résistance à Marseille. Ça a été un grand centre de résistance à Marseille. Et là, elle va s'adresser à des marins de la marine marchande et à des officiers de marine. Ce sont des officiers de marine ou des mécaniciens de la marine qui sont venus d'abord à elle. Et peu à peu, ça fait boule de neige. Elle-même s'adresse à un vieil ami dans la région de Dijon. Donc des gens qui ont une certaine compétence, qui peuvent observer et qui ont quand même une formation militaire et qui peuvent donc faire des observations. Et puis peu à peu, elle apprend le métier. Donc il faut rassembler des renseignements. Mais en même temps, elle se rend très bien compte que rassembler des renseignements ne suffit pas, il faut les transmettre. À qui les transmettre ? Elle choisit les Britanniques.
Alors, c'est très important ce que vous dites. En tous les cas, le verbe que vous utilisez, elle choisit. Est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'il n'y a que les Britanniques ? Est-ce qu'on peut finalement envoyer des renseignements en Afrique ? Ou bien en Angleterre uniquement au général de Gaulle ?
Alors, le seul choix possible, c'était le général de Gaulle ou directement les Britanniques. Oui. Donc, je vous ai dit, après ce voyage qu'avait fait son frère, elle ne pense que le général de Gaulle, c'est pas très utile et qu'il faut s'adresser directement aux Britanniques qui sont très demandeurs puisque va commencer la grande bataille de l'Atlantique. Après la bataille de Londres, c'est la bataille de l'Atlantique où les navires britanniques, les grands convois qui apportent le ravitaillement, l'essence, les armes depuis les États-Unis sont coulés de manière dramatique. Si vous voulez, à un certain moment, les chantiers britanniques construisent moins de navires que les Allemands n'en coulent. Donc, ils sont très demandeurs et ils n'ont plus aucun réseau en France. D'ailleurs, ils n'avaient presque rien avant-guerre, puisque France et Angleterre étaient alliés. On n'a pas un réseau d'espionnage chez son allié, ou très discret. Donc, il ne restait rien. Et ils sont très demandeurs de renseignements sur les sous-marins qui vont en chasse à partir de l'Orient. Donc, elle pense que c'est les Britanniques avec qui on doit s'entendre, parce que c'est eux qui ont le plus de besoin. C'est eux quand même qui dirigent la la guerre. Alors, elle a bien pensé que si elle donnait les renseignements à De Gaulle, De Gaulle ensuite les transmettait aux Britanniques, c'est très long. Tandis que là, avec le réseau de postes de radio que vont lui fournir les Britanniques, les renseignements arrivent tout de suite, presque immédiatement, du moins les plus importants. Les autres partent par courrier, ça c'est très long, mais elle peut transmettre très vite des renseignements stratégiques. Et surtout, l'exploitation, comme on dit, est immédiate de la part des Britanniques. Ils peuvent faire un bombardement sur les objectifs qu'elle a indiqués. Tandis que De Gaulle n'en a pas les moyens, il n'a pas les avions, il tient tous ses moyens des Britanniques. Mmh. Par ailleurs, les Britanniques lui envoient énormément d'argent. L'argent, c'est quand même le nerf de la guerre secrète. Mmh. Et là, De Gaulle n'avait pas ses moyens. Alors, elle n'a pas exclu pour des raisons idéologiques, puisqu'elle n'est pas idéologue du tout. Elle l'exclut pour des raisons d'efficacité. Les Britanniques sont les plus efficaces, et puis c'est eux qui en ont le plus besoin et qui peuvent être les plus utiles dans une guerre, puisqu'elle a quand même vraiment une vision mondiale. Son action, c'est une action qui se veut militaire dans un conflit mondial dans lequel il n'y a que les Britanniques qui s'opposent à Hitler.
Alors, il y a un événement qui est majeur pendant cette vie sous la guerre, c'est l'arrestation de Loustalot-Lacaux qui lui permet d'être pleinement indépendante et puis de finalement de montrer toutes ses qualités d'organisatrice, de prise en main de ce réseau.
Oui, c'est-à-dire que jusqu'à l'arrestation de Loustalot-Lacaux, elle est un brillant second. Mmh. Elle est le chef d'état-major, un petit peu, si vous voulez, comme à combat. Bertie Albrecht a été le chef d'état-major de Freinet. Mais Bertie Albrecht n'est jamais devenu la première. Tandis qu'elle va devenir la première, parce que Loustalot-Lacaux, dont je vous ai dit que c'était un romantique, lui aussi, a voulu soulever l'Algérie. C'était une drôle d'idée de soulever l'Algérie en mai 1941. C'était peut-être un peu prémonitoire, mais c'était un peu précoce quand même. Mmh. Et donc là, dans sa tentative de putsch en Algérie, dans l'armée, il est dénoncé, il est arrêté, il est condamné à 2 ans de prison, donc il est exclu et elle se demande si elle va le remplacer. Elle a des doutes parce que d'abord, c'est une femme. Est-ce que les Britanniques accepteront qu'une femme dirige un réseau de renseignement, un réseau où il y a beaucoup de militaires? Est-ce que les militaires eux-mêmes accepteront d'obéir à une femme? Alors ça lui pose moins de problèmes parce qu'elle est sollicitée par ses premières recrues qui ont déjà confiance en elle.
Oui.
Et pour les Britanniques, eh bien, quelqu'un lui suggère, c'est Jean Boutron, je crois, qui est un diplomate, enfin qui est attaché militaire, qui lui suggère finalement de ne pas dire qu'elle est une femme et de signer les télégrammes pause 55. Et pendant plusieurs mois, elle signera pause 55. Et puis elle dit, ça n'a pas d'importance, parce que quand ils verront les résultats, qui seront bons, elle a une confiance extraordinaire en elle. Oui, puis c'est vrai que les résultats sont importants. Quand ils verront les résultats, ils n'attracheront plus d'importance à mon sexe.
Alors, première rencontre, en fait, les Anglais découvrent qu'il s'agit d'une femme. C'est à Madrid, hein, c'est bien cela.
Oui.
Elle se rend à Madrid dans des conditions un peu rocambolesques.
Oui, elle risquait d'être arrêtée, donc elle est partie à Madrid. Bon, elle raconte cela, c'est un peu rocambolesque. Elle est cachée pour passer
dans un sac
du courrier diplomatique.
Oui,
bon.
Oui.
Et elle arrive à Madrid pour rencontrer effectivement son officier traitant britannique. Et là, il découvre que c'est une femme. Alors, le milieu de Madrid était un milieu où l'Intelligence Service avait quand même pas mal de relations. Et elle est aidée par un attaché militaire, donc l'attaché naval de l'ambassade de France à Madrid, officier pétainiste, mais il y avait des gens qui ne l'étaient pas à l'intérieur de l'ambassade de France. Et puis aussi par Georges Charaudeau, qui travaille pour l'intelligence service depuis les années 30 et qui a monté une maison de couture avec sa femme à Madrid où tout le gratin féminin, bien sûr, du franquisme fréquente. Et là, dans ce milieu-là, elle rencontre donc son officier traitant et ils se mettent d'accord. Bon, lui trouve son travail efficace, lui donne des conseils aussi. Les Britanniques lui donneront des conseils régulièrement et elle les suivra, ce qui est une bonne chose, que ne faisaient pas tous les résistants. Ils sont des maîtres dans ce domaine-là. Et là, elle se met d'accord donc, avec les Britanniques et ils l'acceptent véritablement puisque maintenant, c'est la seule femme reconnue comme chef de réseau par les Britanniques en Europe.
Malheureusement, Michel Cointet, le temps avance. Je passe sur l'épisode de la récupération du réseau par Darlan. J'en viens directement à l'apogée. Vous décrivez dans toute cette partie consacrée à l'apogée du réseau, nous sommes en 1942, vous décrivez toutes les actions, tous les moyens dont bénéficiait le réseau pour communiquer. Et vous terminez par ce qui apparaît comme le plus grand fait d'armes du réseau Alliance, c'est l'évasion de Giraud.
Oui, c'est là que j'avais rencontré, si vous voulez. C'est ce qui m'a donné, au fond, l'idée. Enfin, qui m'a donné l'impulsion pour faire cette biographie et pour vaincre peut-être une certaine pudeur qui tenait à mes relations amicales avec Marie-Madeleine Fourcade. Et là, j'ai vu le rôle important qu'avait joué ce réseau. Il fallait faire évader le général Giraud de France. Il était surveillé par la police de Vichy. Il était caché par une partie des services de renseignement français. Et il fallait qu'il puisse partir en sous-marin pour accueillir les Américains le 7 novembre 1942 à Alger et tenter par un appel de faire basculer l'armée d'Afrique du côté des Américains et des Britanniques. C'était le rôle qui lui avait été donné, mais il fallait gagner évidemment par la Méditerranée. Donc les Américains et les Anglais pouvaient envoyer un sous-marin, mais ce sous-marin croisait au large du Lavandou et c'est toute une organisation qu'il fallait mettre sur pied. Donc c'est le réseau Alliance qui a organisé cette évasion parce qu'il avait les moyens de transmission radio et puis il avait des équipes sur place hein, en particulier. Alors chaque année, j'ai appris, il y a une cérémonie au Lavandou qui célèbre cette évasion parce que les patriotes locaux, si vous voulez, ont beaucoup contribué. Un marin a donné son embarcation et puis les membres du réseau Alliance qui étaient implantés sur le Lavandou, ils étaient une dizaine d'hommes, une femme aussi, ont fait cette organisation. Bon, il faut aussi une villa pour accueillir, pour attendre, il faut des moyens de liaison par voiture à une époque où on n'a pas d'essence. Donc c'est là tout un tas de problèmes matériels qu'il faut résoudre. Mais en même temps, cette évasion du général Giraud, qui est un grand succès, puisqu'ils arrivent à l'embarquer au deuxième jour hein, sur le sous-marin Séraph, va être dramatique pour le réseau parce que, évidemment, la multiplication des liaisons radio nécessaires avec les Britanniques a attiré l'attention de la police de Vichy.
Alors, il y a nombreux portraits de personnages dans votre ouvrage. Vous réhabilitez une France que l'on disait peureuse, une France que l'on disait veule, que l'on a tendance un peu à voir à travers le film de Louis Malle, Lucien Lacombe, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le réseau Alliance est un réseau qui se distingue notamment par le fait qu'il est composé de personnages qui viennent de tous les horizons, des prêtres, des femmes. C'est le réseau où il y a le plus de femmes.
Oui, alors si vous voulez, j'ai une grande chance qui tenait au remarquable sens de l'organisation de Marie-Madeleine Fourcade. C'est le seul officier liquidateur, c'est-à-dire les gens qui s'occupent du réseau après la guerre. Hein, c'est le seul officier liquidateur qui a été aussi attentif à la constitution d'archives. Déjà, ces archives, elle les avait constituées dès 1940. Elle avait l'esprit historique hein, aussi. C'est important d'avoir une mémoire précise, mais il faut aussi avoir des documents. Et là, j'ai eu les 3000 dossiers du réseau Alliance et je me suis livrée à un travail qui n'apparaît peut-être pas trop dans cet ouvrage, mais qui est très réel par derrière, à des études statistiques extrêmement minutieuses sur mes 3000 membres. Parce que là, au moins, je sais, et c'est peut-être le seul réseau pour lequel, en France, on ait ces renseignements complets, si vous voulez, du point de vue sociologique, du point de vue de l'origine. Alors, j'arrive à des chiffres très précis, si vous voulez. On a 45% de membres de la fonction publique, alors que d'habitude, on dit la fonction publique, elle a servi Vichy. Peut-être, certains, mais moi, je trouve quand même 44% de membres d'Alliance venant de la fonction publique, et par majorité de la fonction publique civile, des gens qui étaient dans les ministères, au ravitaillement, bon, pas dans certains postes, mais je trouve aussi 5% de policiers. On voit toujours les policiers, bien sûr, qu'il y en a eu qui ont fait les arrestations, qui ont procédé à la rafle du Veldiv, mais il y a aussi 5% d'officiers au réseau Alliance qui jouent la protection, qui donnent des renseignements et qui lui permettent de survivre, incontestablement. Et puis le deuxième groupe, c'est un groupe de chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils sont aussi très nombreux. Alors, chef d'entreprise, ça peut aller de l'industriel au commerçant et à l'artisan. Hein. J'ai une vision assez large de ce monde des chefs d'entreprise qui sont importants parce qu'ils ont des moyens de transport. Donc, on les sollicite. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y a 5% de prêtres, enfin, plutôt de religieux et de professeurs de séminaires et d'enseignements libres. Hein. Peut-être moins de prêtres parce que les prêtres, leur vie est quand même très, très publique hein, dans une paroisse. Alors, ce sont plutôt des religieux, hein, souvent. Et puis, il y a beaucoup de femmes. Alors ça, si vous voulez, c'est un chiffre auquel je tiens. On disait, les femmes n'ont que peu participer à la résistance parce qu'elles avaient la charge d'enfants, enfin toutes sortes de raisons qu'on peut comprendre. Or là, j'arrive à un chiffre de 25% de membres actifs du réseau, ce sont des femmes. Alors c'est le même chiffre qu'un témoignage chrétien. Mais on disait, le grand mouvement où il y a des femmes, c'est témoignage chrétien. Mais témoignage chrétien n'est pas un réseau de renseignement. C'est un réseau de propagande, c'est un réseau de résistance spirituelle, mais il n'y a pas d'action. Tandis que là, c'est de l'action. 25% de femmes, c'est le mouvement le plus féminisé de toute l'occupation.
Alors j'en reviens à l'histoire chronologique. J'ai commencé cette émission en évoquant le départ de Marie-Madeleine Fourcade en Angleterre. Pourquoi part-elle en Angleterre ? Ce sont les Anglais qui la font venir ? Parce qu'elle ne souhaite pas partir.
Oui, elle part en 1943. Elle ne souhaite, comme vous l'avez merveilleusement évoqué tout à l'heure, elle ne voulait pas partir. Hein. Les Britanniques la réclamaient. Alors il faut dire que les chefs de la résistance, à partir de 1942, partent souvent pour Londres par le système des petits avions qu'on appelle les Lizzie, les opérations pick-up. Hein. On les ramasse rapidement et puis on les amène au moment de la pleine lune. Et ils auraient voulu la voir. Et puis en même temps, il y a peut-être aussi un certain nombre de compétences techniques nouvelles à acquérir et puis de décisions à prendre. Elle refusait, elle voulait rester sur le terrain et elle a quand même fini par accepter de partir après avoir refusé pendant plusieurs mois. Et c'était une chance pour elle parce que le réseau est détruit en son absence. Évidemment, les Britanniques vont la garder à Londres pendant un an parce qu'elle ne peut pas repartir, parce que si elle est arrêtée, elle sait tout. Mmh. Et donc, ça serait très dangereux pour le réseau. Donc, ils vont la garder dans une position qui pour elle est quand même assez triste parce qu'elle voit tout disparaître. Elle apprend par les ondes radio et par les Britanniques que tout disparaît en son absence. Elle n'a pas le droit de revenir en France. Enfin, elle y reviendra quand même.
Alors justement, elle y reviendra et nous y reviendrons, si vous le voulez bien, après une toute dernière pause. À tout de suite, Michel Cointet.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Academy. Le téléchargement est gratuit.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à Marie-Madeleine Fourcade. Michel Cointet, vous êtes historienne et vous venez de publier une biographie de ce personnage extraordinaire. Nous avons malheureusement en si peu de temps évoqué cette vie. La guerre se termine. Marie-Madeleine Fourcade, nous venons de le dire, survit à la guerre puisqu'elle était en Angleterre. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Le réseau Alliance compte 438 morts, très exactement. Et immédiatement, vous évoquiez son souci historique. Eh bien là, Marie-Madeleine Fourcade recherche les martyrs. Elle essaie de comprendre où sont passés, en fait, tous ceux qui ont disparu et dans quelles conditions.
Oui, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que les hommes sont partis nuit et brouillard. Hein, donc les familles ne savaient rien, étaient très inquiètes. Bon, on pensait qu'ils étaient peut-être en prison. Et puis, elle suit les troupes, hein, finalement, françaises. Et elle arrive au Struthof. Et au Struthof, elle arrive d'abord à Schirmeck, puis au Struthof. Et là, elle apprend que les 108 membres d'Alliance qui étaient arrivés dans l'été 1944 ont été exécutés de manière atroce. Hein. Il y a une plaque, elle a fait mettre une plaque qu'on peut lire au Struthof sur les 108 morts qui ont été exécutés de manière... D'ailleurs, qui n'est pas tout à fait normal, puisque souvent les gens qui sont dans l'enseignement souvent sont échangés. Là, il n'y a pas eu d'échange et il y a eu des massacres abominables. Ceux qui étaient aussi dans les prisons allemandes ont été exécutés en août 1944, parfois noyés dans le Rhin. Enfin, des exécutions très brutales. Il est vrai aussi, il faut dire, que le réseau Alliance est un réseau militarisé et que c'est lui qui a fait quand même énormément de dégâts à l'armée allemande. Et donc, évidemment, la guerre continuer. Donc peut-être qu'il y a là une vengeance. Mais il y a un peu de mystère aussi sur cette brutalité des Allemands à l'égard du réseau. Ça a été quand même quelque chose d'assez atroce. Parce que, si vous voulez, quand vous regardez les conclusions du Conseil de guerre ou même des services de surveillance allemands, ils concluent que ces personnes ne sont sans doute pas très, très coupables. Enfin, ils n'ont pas exactement discerné ce qu'ils avaient fait. Et pourtant, on les exécute. Un ordre venu de Berlin, c'est difficile de le savoir.
Un petit mot peut-être sur son rapport avec le gaullisme.
Alors, elle s'est ralliée à De Gaulle très tardivement à Londres en 1944. Je crois qu'elle a attendu le dernier moment, le mois d'avril 1944. Mais là, comme les services secrets étaient fusionnés, elle n'aurait plus de fond du tout si elle avait refusé De Gaulle. Alors, bon, allons-y quoi pour le rapport au BCRA. Et puis le BCRA lui donne beaucoup de facilité pour revenir en France. Donc, elle pense qu'elle pourra en faire ce qu'elle veut. Donc, c'est un ralliement raisonnable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que par la suite, elle est devenue une grande gaulliste. Elle est devenue une grande gaulliste peut-être à cause de son mariage avec Hubert Fourcade, un Français libre, qui était très un grand admirateur de De Gaulle. Et puis, elle est devenue gaulliste au temps du RPF. Hein, elle a agi dans le RPF par anticommunisme, renouant là un peu avec son action des années 30. Et elle est un des artisans du retour du général De Gaulle au pouvoir, ce qu'on ne sait pas tellement. Elle a financé avec Hubert Fourcade, son mari, le courrier de la colère du sénateur Michel Debré. Et elle a mené une action de propagande très forte, si vous voulez, faisant pression sur le président de la République, René Coty, rappelé de Gaulle. Et puis, il y a eu des grandes campagnes d'affichage à la veille de mai 58 dans la région parisienne, parce qu'elle est présidente du CAR, du Comité d'Action de la Résistance, qui réunit une cinquantaine d'associations d'anciens résistants et engagés volontaires de la Résistance. Et donc, un peu secrètement, ils soutiennent de Gaulle et elle les pousse à ce soutien au général de Gaulle.
Alors, nous en arrivons, Michel Cointet, à votre conclusion, hein, qui est une envolée politique, si vous me permettez. Je me permets de vous citer la précocité de Marie-Madeleine Fourcade. Sa précocité est particulièrement remarquable quand, pour certains, devenir résistant après novembre 1942 est de l'intelligence politique et l'être dans l'été 44 de l'opportunisme. Et vous continuez plus loin en disant: si Marie-Madeleine et Loustonot Lacaux n'ont jamais appartenu à la cagoule de Deloncle, ils sont sans contestation possible de droite d'un milieu où l'on honore les armes, d'une éducation imprégnée du sens de l'honneur, d'exaltation nationale et de goût de la réussite. Là, vous brisez finalement une mythologie qui souvent a fait autorité dans l'historiographie.
Ah, certainement, et je le prouve en même temps par l'étude qui précède, si vous voulez, c'est qu'effectivement il y a eu une droite résistante. Normalement, si vous voulez, on voit plutôt...
Et qui commence très tôt.
Qui commence tout de suite, en 1940. Mais on pense plutôt que la résistance est de gauche. C'est vrai qu'il y a une résistance de gauche importante, de gauche, pas seulement la gauche communiste, hein, une autre gauche, mais c'est parce que c'est la résistance des mouvements. Or, pour moi, le mouvement a un aspect déjà très tôt politique, hein. Et les mouvements comme Combat ou d'autres mouvements pensent à la prise du pouvoir, à la libération, ce qui n'est pas du tout le cas du réseau de renseignement de Marie-Madeleine Fourcade. Et cette droite, qui fait en partie abstraction de la politique pendant la guerre, ne récuse pas du tout ses sources, c'est-à-dire le patriotisme, l'honneur, le goût de l'action et puis une grande fierté française. Et je crois que, si vous voulez, c'est une des leçons, bon, c'est peut-être un peu emphatique de le dire, que je voulais donner, c'est que quand moi je vois cette résistance, je trouve que les élites françaises, dans l'ensemble, n'ont pas failli. Bien sûr qu'il y a eu des défaillances et elles-mêmes étaient très dédaigneuses et très méprisantes. Elle dit « des lâches, j'en ai trouvé », mais elle disait « des lâches, j'en ai trouvé dans tous les milieux ». Dans tous les milieux, et pas particulièrement, c'est une question d'hommes, c'est pas obligatoirement une question de milieu social, mais on voit quand même des élites tout à fait extraordinaires. En particulier, regardez les ingénieurs de l'armement, des chefs d'entreprise, des artisans, des gens très simples. Et j'ai trouvé, par exemple, la seule manifestation politique avant le STO,
autour d'un personnage
à Brive,
qui est un
simple artisan plombier zingueur, si vous voulez. On a une manifestation d'une centaine de personnes pour empêcher les Allemands de l'arrêter, sous la conduite de l'archiprêtre de la cathédrale, qui lui sera arrêté et déporté. Donc on voit des gens qui s'engagent et qui, il faut dire, dans l'ensemble appartiennent aux élites sociales, qui ne sont pas des élites de l'argent, hein. Beaucoup de fonctionnaires, hein, en particulier, ce ne sont pas des gens extrêmement riches, ce sont des gens qui ont le sens du service public et qui très discrètement, si vous voulez, agissent. Et n'en feront pas, je le répète, ils ne se serviront pas de leur action comme d'un socle d'une action politique après la libération. Si vous voulez, on parle de la résistance, mais peut-être qu'on en a une idée un peu inexacte. On voit la résistance telle que l'ont célébrée un certain nombre d'hommes politiques, et ceux qui en ont fait le plus ont été souvent les plus silencieux, et ceux qui n'en ont pas fait énormément ont fait état parfois à l'excès d'actions qui n'ont pas été parmi les plus éclatantes.
Vous avez, à l'heure où on parle beaucoup de repentance, il y a un mot que vous donnez en conclusion. Toute une société, écrivez-vous, de ces classes dites moyennes, surgit de la nuit en des images brèves et lumineuses. Et vous terminez votre ouvrage: une France qui tombe, point d'interrogation, ce serait mensonge de l'affirmer.
C'est la conclusion, si vous voulez, de ce que j'ai examiné, d'avoir recréé, après avoir recréé finalement cette multiplicité des vies, il y a la résistance, m'apparaît, comme ce qu'elle apparaissait aux Allemands, on le trouve dans les textes des policiers allemands, comme une sorte d'hydre. On coupe des têtes, mais sans arrêt, elle renaît, c'est-à-dire c'est une société très dynamique. Et les Allemands eux-mêmes, dans leur rapport, en sont presque étonnés. Ils pensent qu'ils ont arrêté quelqu'un et puis il y a 5-6 personnes qui prennent le relais et qui le prennent pour des raisons patriotiques, hein, pas du tout pour en tirer des avantages. C'est une action tout à fait désintéressée que celle des hommes qui étaient dans les réseaux de renseignement. Donc pour moi, c'est la manifestation d'une France qui se tient et d'une France qui croit en elle-même et qui n'est pas très différente finalement de la France qui est morte à Verdun.
Eh bien, Michel Cointet, merci beaucoup à vous d'être venu au micro de Canal Académie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre de la biographie de Marie-Madeleine Fourcade, Un chef de la résistance, paru chez Perrin. Je renvoie aussi nos auditeurs à votre autre ouvrage dont nous avons parlé dans une autre émission, De Gaulle et Giraud, l'affrontement chez le même éditeur, Perrin.
Je vous remercie.
Merci et à très bientôt.